pain sur la table.
Dialogue autour de l'Évangile avec André Choquette
et Georges Convert.
Évangile de Jésus selon l'écrit de Marc. Texte de la liturgie catholique pour le deuxième dimanche de Carême. Jésus leur dit :
Amen, je vous le dis. De ceux qui se tiennent ici, il en est certains qui ne goûteront pas la mort avant d'avoir vu le règne de Dieu venu en puissance.
Six jours après, Jésus prend à part Pierre, Jacques et Jean. Il les fait monter sur une haute montagne, à l'écart, seul. Et il est transfiguré devant eux. Ses vêtements deviennent resplendissants, extrêmement blancs, à tel point qu'un foulon sur la terre ne peut blanchir ainsi. Élie leur apparaît avec Moïse en train de parler avec Jésus. Prenant la parole, Pierre dit à Jésus :
Rabbi, il est bon pour nous d'être ici. Faisons trois tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie.
En effet, il ne sait ce qu'il répond, car ils sont frappés de terreur. Une nuée survient, qui les couvre de son ombre. Une voix parvient de la nuée.
Celui-ci est mon fils, le bien-aimé, écoutez-le.
Soudain, regardant à la ronde, il ne voit plus personne, sauf Jésus seul avec eux. Comme ils descendent de la montagne, il leur recommande de ne raconter à personne ce qu'ils ont vu. Sinon, quand le Fils de l'homme sera relevé d'entre les morts. Ils gardent cette parole entre eux, discutant de ce qu'est se relever d'entre les morts.
Chers auditeurs et auditrices, bonjour. Bonjour André.
Bonjour Georges. Nous qui sommes les disciples de Jésus d'après Pâques, nous pouvons comprendre la transfiguration comme la manifestation de la divinité de Jésus. Est-ce bien ce que les trois disciples présents ont saisi de cet événement? Et quel sens ont ces images de vêtements d'un blanc lumineux, de nuées, de tentes? Et que peut bien signifier cet événement pour nous aujourd'hui?
Eh bien, voilà quelques questions que nous pouvons nous poser, mais pour mieux comprendre cet épisode, il peut être utile de voir comment il s'insère dans le récit de Marc. Nous sommes ici à un moment charnière de la mission de Jésus. Les récits synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, ont décrit les premiers mois de la prédication dans le cadre de la Galilée. Et le point culminant de cette période semble avoir été le repas des pains partagé à la foule. Un événement dont les conséquences peuvent nous apparaître paradoxales, du moins selon ce que décrit le récit de Jean. En effet, le récit de Jean dit que ce repas souleva les foules.
À la vue du signe qu'il venait de faire, les gens disaient « C'est vraiment lui le prophète qui doit venir dans le monde ».
Mais pourtant, Jésus refuse de se laisser porter à la tête des gens du peuple comme le Messie.
Jésus, se rendant compte qu'ils allaient venir s'emparer de lui pour le faire roi, s'enfuit à nouveau dans la montagne, tout seul.
Et de plus, le lendemain, dans la synagogue de Capharnaüm, il va tenir à ceux qui ont participé à ce repas des propos plutôt surprenants sur sa chair qu'il faut manger pour avoir la vie divine en soi. Et cela, eh bien, va décourager nombre de ses disciples.
Après l'avoir entendu, beaucoup de ses disciples dirent « Elle est dure, cette parole. Qui peut l'écouter ?» Dès lors, beaucoup de ses disciples se retirèrent et n'avaient plus avec lui.
C'est dans ce contexte que Jésus va poser la question de confiance aux douze.
« Voulez-vous partir, vous aussi ?» Simon lui répond, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous, nous croyons et nous avons reconnu que tu es le Saint de Dieu. »
« Tu es le Saint de Dieu. » Eh bien, les synoptiques ont une réponse sensiblement différente. Pierre dit « Tu es le Messie ». On sait que jusqu'à maintenant, Jésus a demandé le silence à ceux qu'il guérissait. Et là, il ne reprend pas ses disciples qui lui décernent le titre de Messie, mais il va plutôt orienter leur pensée sur le destin qui va être le sien.
Il commença de leur enseigner. Le Fils de l'homme doit beaucoup souffrir, être rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, être tué et, après 3 jours, ressuscité.
Et Pierre, bien sûr, ne comprend pas. Il se met à contester son maître, ce qui va lui valoir une réplique cinglante.
« Passe derrière moi, Satan, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. »
Eh bien, c'est dans ce contexte que Jésus entraîne 3 de ses disciples pour prier à l'écart. Mieux comprendre la pensée divine sur la mission de Jésus, voilà sans doute ce que va permettre ce que l'on pourrait appeler une sorte de retraite sur la montagne. Eh bien, regardons notre texte.
Amen, je vous le dis. De ceux qui se tiennent ici, il en est certains qui ne goûteront pas la mort, avant d'avoir vu le règne de Dieu venu en puissance.
Cette phrase, elle vient comme en conclusion des perspectives que Jésus a dessinées à ses disciples sur leur propre destinée. En réplique à Pierre, dont les pensées, comme le dit Jésus, ne sont pas celles de Dieu, Jésus avertit ses disciples qu'il leur faudra eux aussi prendre leur croix. C'est que le destin de Jésus, ce destin qui va le mener à la mort, n'est pas un événement fortuit. Il est dans la logique de son évangile. En effet, Jésus a contesté la vision de Dieu qui est celle de l'élite religieuse et principalement celle des pharisiens et des scribes. Pour Jésus, notre relation à Dieu ne doit pas se vivre comme une soumission à des commandements comme font bien des juifs pieux. Non, Dieu est un Père qui veut vivre avec chacun une relation d'amour, et une relation d'amour dans la liberté. La parole du Père et des 2 fils illustre bien cela. Le fils aîné proclame, lui, que son attitude est correcte. « Voilà tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé un seul de tes ordres. » Mais, malheureusement, cette attitude correcte peut fermer le cœur à la miséricorde. Ainsi, elle empêche ce fils aîné de se réjouir du retour de son frère. Et il est même désemparé devant l'attitude de son père, une attitude qui lui semble injuste, celle d'accueillir sans imposer une certaine sanction, d'accueillir ce fils qui a pourtant dilapidé son bien. Pour Jésus, cette froideur du cœur qui fait passer la justice avant l'amour est désastreuse. Elle est désastreuse parce qu'elle empêche d'entrer dans la vraie communion avec Dieu. Elle rend incapable de vivre le pardon comme un acte de foi en la puissance de l'amour, l'amour qui seul peut libérer le cœur de celui qui fait le mal. Mais prêcher comme le fait Jésus, vivre l'amour de cette façon, conduit au conflit avec ceux qui prônent la priorité de la justice. Donc le conflit avec les gens pieux et les chefs religieux. Et ce conflit, eh bien, va conduire Jésus à la croix, à l'apparent échec des témoins de l'amour. Et ce qui est vrai pour Jésus, eh bien, cela sera aussi vrai pour ceux qui, à travers les siècles, vivront de son évangile.
Alors, comment concilier la croix et la promesse d'un règne de Dieu venu en puissance?
Oui, en effet, Jésus peut-il prétendre à ce rôle de Messie, d'être le chef qui doit guider le peuple de Dieu vers la liberté et en même temps se laisser condamner à la mort par les gens pieux d'Israël? Le Messie devait en effet conduire le peuple à se libérer des Romains et à faire respecter la règle de Dieu, la Torah, par tous ses fidèles. Alors comment cela va-t-il se réaliser si le Fils de l'homme doit être condamné? Devant ces questions que les disciples devaient se poser avec angoisse, Jésus se doit d'affermir leur confiance en sa mission, et il leur promet qu'ils verront le règne de Dieu venu avec puissance. Et même lors du procès, alors que sa mort est certaine et imminente, eh bien on retrouvera cette même affirmation dans la réponse de Jésus au grand prêtre, le grand prêtre qui lui demande de dire s'il est vraiment le Messie.
« Je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme siégeant à la droite du Tout-Puissant et venant avec les nuées du ciel. »
Le grand prêtre, d'ailleurs, va taxer cette affirmation de Jésus de blasphème. Peut-être parce qu'il se refuse à voir Dieu donner sa gloire à celui que le Sanhédrin va condamner comme étant un fossoyeur de la Torah. En effet, comment ce prophète qui prône la désobéissance aux règles de la Torah peut-il être le bien-aimé de Dieu? Car ce titre de fils de l'homme que Jésus s'attribue évoquait le texte de Daniel où le fils de l'homme, justement, représente celui à qui Dieu donne les pleins pouvoirs. Et il lui donne les pleins pouvoirs pour rassembler en lui tous les saints du peuple de Dieu. Alors, comment celui qui va mourir sur une croix, rejeté, méprisé, peut-il être ce fils de l'homme béni de Dieu? Oh, bien sûr, nous, chrétiens d'aujourd'hui, nous pouvons nous appuyer sur la résurrection de Jésus pour comprendre que la croix n'a pas été un échec. Mais avant la résurrection de Pâques, comment les disciples pouvaient-ils voir en Jésus le Fils de l'homme, le Messie, alors qu'il leur dit qu'il marche vers la croix? C'est dans cette atmosphère lourde de questions et d'inquiétudes que Jésus emmène trois des siens sur la montagne.
Il les conduit sur une montagne élevée, seul, à l'écart.
Eh bien, Jésus a en effet coutume de prier dans les régions montagneuses et quasi désertiques. Mais cette démarche peut aussi évoquer les grands moments du peuple d'Israël. Ces moments où Israël a fait une rencontre plus exceptionnelle de Dieu. C'est en effet sur la montagne du Sinaï que Moïse recevra les préceptes de la Torah. Et c'est aussi sur cette même montagne qu'Élie fera la rencontre de Dieu, Dieu qui se manifestera à lui dans la douceur de la brise. Monter sur la montagne, c'est donc faire mémoire de ces moments déterminants du peuple d'Israël, afin d'en revivre la signification profonde.
Il fut transfiguré devant eux.
Le terme grec est employé ici, littéralement métamorphosé, signifie changer d'aspect, changer de figure. Cette transformation, eh bien, elle va être décrite avec des images traditionnelles qui sont puisées dans les écrits bibliques.
Ses vêtements deviennent resplendissants, extrêmement blancs, à tel point qu'un foulon sur la terre ne peut blanchir ainsi.
Le mot foulon nous est peut-être un peu inconnu. Eh bien, il décrit aussi bien l'artisan que la machine elle-même qui foule l'étoffe pour lui donner de l'épaisseur et qui peut éventuellement la blanchir. Nous avons d'ailleurs au Québec un village qui porte le nom de Lance au Foulon. Et le mot grec leucos, qui se traduit par blanc, est de même origine que le latin lux, qui veut dire lumière. Dans le langage de la Bible, en effet, le blanc est une couleur de lumière éclatante et il s'oppose au noir qui évoque les ténèbres. Le blanc est donc la couleur des êtres glorieux, célestes, transfigurés. Évoquons pour cela, dans le livre de Daniel, la description de l'ancien qui représente Dieu.
Des trônes furent placés et un ancien s'assit. Son vêtement est blanc comme la neige. Les cheveux de sa tête sont purs comme la laine.
Et plus tard, l'Apocalypse de Jean décrira avec des images semblables le Fils de l'homme.
Je vis au milieu des chandeliers quelqu'un qui semblait un fils d'homme. Il était vêtu d'une longue robe. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme laine blanche, comme neige, et ses yeux étaient comme une flamme ardente. Son visage resplendissait, tel le soleil dans tout son éclat.
Cet éclatement de lumière et de blancheur suggère donc que Jésus vit une intense communion avec le Père. Lorsque l'être humain est témoin de l'être divin, un être réel mais qui le dépasse, il lui est difficile de décrire en des mots son expérience, alors il a recours à des images pour évoquer cette dimension autre, cette dimension supra-ordinaire.
Élie leur apparaît avec Moïse en train de parler avec Jésus.
Jésus s'entretient donc avec deux grands témoins de cette alliance qui unit Dieu et Israël. Le premier, c'est Moïse, qui est celui qui a reçu la règle de vie donnée par Dieu, la Torah.
Le Seigneur notre Dieu a conclu avec nous une alliance à l'Horeb. Sur la montagne au milieu du feu, le Seigneur vous a parlé face à face, et moi je me tenais alors entre le Seigneur et vous, pour vous faire connaître les paroles du Seigneur.
Moïse a donc servi de médiateur entre Dieu et son peuple. Et Dieu avait alors promis à Moïse qu'il enverrait dans l'avenir un prophète semblable à lui.
C'est un prophète comme toi que je leur susciterai du milieu de leurs frères. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai.
À l'époque de Jésus, certaines traditions disaient que le Messie que l'on attendait serait ce prophète semblable à Moïse. Élie est lui aussi un grand prophète dont la tradition disait qu'il n'était pas mort mais qu'il avait été emporté vivant au ciel. Le livre de Malachie le présente comme celui qui restaurera l'alliance avant que ne vienne le grand jour du jugement de Dieu.
Refaites mémoire de la Torah de Moïse, mon serviteur. Voici que je vais vous envoyer Élie le prophète avant que n'arrive mon jour grand et redoutable.
Son retour sur terre était donc attendu par ceux qui voyaient le Messie comme l'envoyé de Dieu devant réaliser précisément ce jugement et restaurer l'alliance. Cette présence commune de Moïse et d'Élie correspond bien d'ailleurs à ce qui est écrit dans un texte rabbinique.
Johanan ben Zakkaï a dit « Dieu dit à Moïse, quand j'enverrai le prophète Élie, vous devez venir tous les deux ensemble. »
Ces deux témoins attestent donc que Jésus est l'envoyé de Dieu que l'on attend. En effet, Élie et Moïse ont conversé avec Dieu sur la montagne. Ils l'ont servi, ils ont souffert pour lui dans leur vie. Jamais ils n'ont cessé d'être ses serviteurs. Alors, sur la montagne aujourd'hui, ils ne viennent pas là en simple figurant. Ils sont en relation vivante avec Jésus et leur présence manifeste sa communion avec le monde du ciel.
Prenant la parole, Pierre dit à Jésus, « Rabbi, il est bon pour nous d'être ici. Faisons trois tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » Une nuée survint qui les couvre de son ombre. Une voix parvint de la nuée, « Celui-ci est mon fils, le bien-aimé, écoutez-le. »
Comme dans l'Exode, la nuée symbolise la présence de Dieu, une présence qui est cachée, car toute la Bible dit, on ne peut voir Dieu avec nos yeux terrestres. Et cette image exprime donc que Jésus est en contact intense avec Dieu son Père, comme lors du baptême où les cieux s'ouvrirent.
Mais comment comprendre cette idée de Pierre de dresser des tentes?
Eh bien, peut-être en faisant appel à la fête juive appelée la fête des tentes. Au verset 6, Marc écrit 6 jours après. Eh bien, cette précision peut faire allusion à cette fête joyeuse, une fête populaire, qui commençait 6 jours après le jour des expiations. Le 7e jour, le grand Hosanna, était le sommet de la fête. On s'y revêtait de blanc, et il y avait une grande profusion de joie et de lumière. On demeurait aussi sous les tentes de branchage. La fête faisait revivre le souvenir des 40 ans qu'Israël avait passé dans le désert sous la tente.
Vous célébrerez la fête du Seigneur Dieu pendant 7 jours. Vous habiterez 7 jours dans des tentes, afin que nos descendants sachent que j'ai fait habiter sous des tentes les enfants d'Israël.
Cet épisode du désert rappelait à Israël l'alliance avec son Dieu qui était alors devenu son roi unique. Mais à l'époque de Jésus, cette fête des tentes évoquait aussi qu'on était en attente du Messie. Au cours d'une procession, d'ailleurs, on intronisait à l'avance le Messie, en le revêtant de blancheur et de lumière, et en le célébrant précisément comme étant la parole de Dieu. La liturgie de la fête chantait « Ô mon peuple, si tu pouvais m'écouter !» Eh bien, la voix qui se fait entendre à la transfiguration demande aussi que Jésus soit écouté. « Celui-ci est mon fils, écoutez-le !» Et de plus, le livre des Jubilés, un livre presque contemporain des Évangiles, annonçait que le Messie attendu lors de la fête des Tentes serait certes un Messie, mais serait le Messie souffrant. Or, sur la montagne de la Transfiguration, la voix de Dieu qui se fait entendre évoque le passage d'Isaïe sur le serviteur souffrant. « Voici mon serviteur, mon aimé, en qui je trouve ma joie. J'ai mis mon esprit en lui. Ça, c'est le verset 42 d'Isaïe. Et dans la traduction grecque de ce passage, le mot hébreu serviteur avait été traduit dans la Bible des Septante par le mot grec païs qui signifie garçon, donc un mot qui est proche du mot fils. Ainsi, la mention de la nuée, celle des tentes et la voix qui reprend le chant du serviteur, tout cela nous oriente vers la fête des tentes comme étant le cadre dans lequel Jésus va faire vivre une expérience spirituelle à ses disciples sur la montagne, afin qu'ils comprennent qu'il est bien le Messie, mais le Messie souffrant. Et cette souffrance du Messie est la conséquence de l'amour. C'est parce qu'il est le Messie aimant, et aimant divinement comme le Père, que Jésus va aller jusqu'à l'offrande de sa vie sur la croix. Oui, la croix est la conséquence de l'amour, d'un amour qui ne peut que se proposer sans jamais s'imposer, d'un amour qui ne peut que répondre par un pardon d'amour à ceux qui veulent le détruire. Toute présence de Dieu, en effet, ne peut violer l'être humain, car elle se trahirait. Un don s'offre, il ne s'impose pas. Ainsi Jésus ne sera pas le Messie triomphant qu'attendaient les Juifs selon des vues trop humaines qui ne sont pas les vues de Dieu, comme Jésus l'a rappelé à Pierre. Si Jésus est bien celui qu'il faut écouter, c'est parce qu'il est le Fils parfait de Dieu, celui qui connaît le Père parce qu'il a été parfaitement à son écoute, et il l'a été en vivant l'amour jusqu'au bout, jusqu'au pardon inconditionnel. La voix vient confirmer que le chemin de l'amour jusqu'à la croix est un chemin selon les vues de Dieu. Elle vient confirmer ce que le Maître Jésus demandera de ses disciples.
Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Qui veut sauver sa vie la perd, mais qui perd sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauve.
En effet, qui veut ôter la croix, ôter le don de soi jusqu'au don de sa vie, ne peut pas comprendre qui est Jésus. On ne pénètre dans la vie véritable, la vie divine, qu'en acceptant de vivre l'amour jusqu'au pardon, qu'en acceptant le chemin de la croix. La libération à laquelle Jésus veut conduire son disciple est une libération intérieure, celle du cœur, qui doit s'ouvrir à la bonté, à l'amour inconditionnel pour le prochain, et ce chemin de l'amour et du pardon passe par le don de sa propre vie.
Pierre ne sait ce qu'il répond, car ils sont frappés de terreur.
Les disciples sont pris d'un effroi sacré, comme on l'est toujours devant l'irruption du divin. Cette irruption du divin qui se fait dans la présence d'Élie et de Moïse. La réponse de Pierre traduit son incapacité à comprendre la situation. Pierre a pu s'imaginer en effet qu'enfin la manifestation de Jésus comme Messie était arrivée. Avec la présence de Moïse et d'Élie, le règne de Dieu allait enfin éclater dans toute sa puissance. Il est heureux que nous soyons ici. Mais le grand jour de Dieu n'est pas encore arrivé et Jésus va inviter Pierre à descendre de la montagne et à continuer la route, car le Fils de l'homme doit affronter l'épreuve de la passion et de la mort. Si Jean le Baptiste a joué le rôle d'Élie comme précurseur, sa mission a été aussi celle d'un prophète rejeté et tué. Ils lui ont fait comme ils voulaient. Si donc le précurseur a connu le sort tragique des prophètes, ainsi en sera-t-il aussi du Fils de l'homme.
Il leur recommande de ne raconter à personne ce qu'ils ont vu, sinon quand le Fils de l'homme sera relevé d'entre les morts.
Jésus insiste sur l'importance de garder le secret sur ce moment exceptionnel. Il désire éviter toute ambiguïté sur le sens de sa mission. Seule, en effet, la croix pourra dire quelle sorte de Messie Jésus veut être. Et cette croix ne prendra son sens véritable que dans la résurrection. Les disciples que Jésus a choisi de prendre avec lui sur la montagne, les trois, sont d'ailleurs ceux qu'il associera plus étroitement à sa propre agonie. Ils seront ainsi associés aux deux faces d'un même événement, la croix et la gloire. Comprendront-ils alors que c'est parce que la croix est un geste ultime de l'amour qu'elle conduit à la gloire? La gloire au sens biblique, qui est ce rayonnement de la plénitude de l'amour. Voilà donc ce que la voix divine est venue confirmer. L'amour qui vit dans le cœur du Christ est vraiment un amour qui est divin. La transfiguration est placée au début de la montée vers Jérusalem, une montée qui va mener à la mort de la croix. La voix de Dieu avait déjà retenti lors du baptême, et cela marquait le début de la mission de Jésus. Elle confirmait alors que Jésus était le Fils parfaitement accompli dans l'amour. Au moment où commence la deuxième étape de la mission, à la transfiguration, la voix confirme que le Fils n'accomplira pleinement l'amour que dans le pardon de la croix. Parce que vécu dans un cœur parfaitement accompli dans le pardon de l'amour, la mort de Jésus le conduira à la résurrection. La transfiguration anticipe donc le grand événement de Pâques. Et c'est ce que la deuxième lettre de Pierre traduira en donnant le sens de ce qui a été vécu par les trois disciples.
Ce n'est pas en nous mettant dans la traîne de fables sophistiquées que nous vous avons fait connaître la puissance et la présence de notre Seigneur Jésus-Christ, mais pour l'avoir vu de nos yeux dans tout son éclat. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la voix venue de la splendeur magnifique de Dieu lui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui en qui j'ai mon amour. » Cette voix, nous-mêmes nous l'avons entendue venant du ciel quand nous étions avec lui sur la montagne.
Et aujourd'hui? Eh bien, peut-être qu'aujourd'hui, la transfiguration nous invite à vivre notre vie dans le sillage de Jésus, c'est-à-dire à apprendre à aimer jusqu'au pardon, et cela, quel qu'en soit le prix à payer. C'est en effet en vivant le pardon que nous pourrons comprendre de l'intérieur la croix de Jésus et la comprendre comme étant l'humble et discrète présence de Dieu dans ce monde. Terminons avec cette pensée de Maurice Zendel. Si la présence de Dieu se fait sentir, ne se fait sentir que discrètement, par aucune contrainte, c'est que justement cette présence de Dieu est éternellement tout amour, rien qu'amour, qu'elle ne peut toucher que par son amour, comme nous-mêmes, nous ne pouvons l'atteindre que par notre amour.
C'était Du pain sur la table, une émission de l'École de la foi et du Catéchuménat de Montréal. Si vous désirez le texte de l'émission ou la cassette audio, téléphonez au numéro 514-254-8750.
Vous pouvez également vous abonner pour 3 mois, 6 mois, 1 an, toujours le même numéro, 514-254-8750.
Du pain sur la table est diffusé le samedi à 8h30 et à 23h. Choix musical et enregistrement, Jean B. Duchaud.
Chers auditeurs et auditrices, à la semaine prochaine. Ne laissons pas le pain sur la table sans en faire notre nourriture.